J'avais fait une chronique à la radio il y a quelques années sur un fait divers qui, vu de notre perspective à nous, semblait plutôt anodin, mais avait été perçu comme épouvantable à l'époque. Ça se passe en 1937, deux jeunes garçons de la région de Québec, 12 et 13 ans, étaient allés à la messe et au lieu de consommer l'hostie consacrée au moment de l'Eucharistie, ils les avaient gardés pour ensuite les poignarder et tenter d'y mettre le feu. Ils en avaient contre les religieux et les religieuses, contre la religion catholique, ils disaient vouloir devenir communistes, bref. Ils sont passés devant un juge qui a condamné le plus vieux, qui avait également fait un petit vol à l'étalage, quelques sous, à 8 jours de prison et les deux frères ont été envoyés à l'école de réforme. Les médias avaient offert une couverture spectaculaire de l'affaire. On parlait d'un crime à glacer d'effroi. Tout ça vu avec nos yeux de 2023, ça semble nettement exagéré. Aujourd'hui, j'aimerais faire l'inverse. Je vous présente un fait divers qui me semble nettement plus grave qu'un petit vol et la profanation de quelques hosties, mais qui a été considéré comme banal et anodin par la justice et les journaux. D'abord, je vous résume ce qui s'est passé. Un samedi de 1928, deux jeunes femmes, on ne donne pas leur âge exact, sortent rue Sainte-Catherine, dans les environs du boulevard Pie-Neuf, aux limites des secteurs Hochelaga et Maisonneuve à Montréal. Elles rencontrent deux jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes gens, c'est les termes qu'on utilisait autrefois. Jusque-là, tout est normal. Les messieurs ont une voiture, assez rare à l'époque. Ils proposent aux demoiselles de les ramener chez elles. Mais ils font un détour, question selon leur dire de prendre l'air. En fait, ils sont partis carrément dans la mauvaise direction. Les deux hommes, dont le conducteur se met à boire, ils roulent à 80 km/h, ce qui, sur les routes de l'époque, tient franchement de l'inconscience. Alors que les jeunes femmes demandent qu'on les laisse descendre, un des hommes commence à gesticuler de façon menaçante en employant un langage grossier. Elles ont finalement réussi, par une ruse féminine, comme le dit le journal, à amener les deux hommes à immobiliser la voiture et à en descendre. Une fois qu'elles ont été seules à bord, une des femmes a pris le volant, et voici que l'élégante voiture démarre en vitesse, laissant nos deux matamores complètement ahuris. Elles ont essentiellement volé la voiture pour pouvoir rentrer chez elles, mais elles l'ont laissée à un endroit où la police a pu la retrouver. Et les matamores sont allés récupérer leur automobile, ils avaient à ce moment-là l'air honteux comme des renards que des poules auraient pris. Donc ça, ce sont les faits de l'affaire, rapportés par un hebdomadaire qui s'appelait Le Petit Journal. Je vous les ai présentés de la manière la plus neutre possible. Voyons maintenant comment le journal en a parlé. Au départ, c'est le titre qui a attiré mon attention. Deux jeunes filles enlevées en plein jour s'échappent grâce à une ruse ingénieuse, tiret, deux freluquets se font jouer un bon tour. Déjà, j'ai l'impression qu'on a deux idées différentes dans le même titre. On parle d'enlèvement, de s'échapper grâce à une ruse, et d'autre part, deux freluquets qui se font jouer un tour. Déjà, le choix du terme freluquet est intéressant. Selon le dictionnaire, ça veut dire un jeune homme frivole et prétentieux. On n'emploie pas des termes comme malfrat, voyou, gredin ou même apache. On a longtemps utilisé ça dans les journaux. Apache, nom d'une famille de nations autochtones du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique, comme synonyme de bandit ou criminel, ce qui n'était pas raciste du tout. On y va pour freluquet, utilisé 4 fois dans l'article. La portion enlèvement du titre, ça ne revient pas par la suite. On met l'emphase sur le jouer un bon tour. Voici comment l'article débute. Comment deux jolies petites Canadiennes... Bon, je m'auto-interromps tout de suite. Qu'est-ce que le fait qu'elles étaient jolies ajoute à notre compréhension de l'histoire? Enfin, comment deux jolies petites Canadiennes ont joué un bon tour à deux freluquets qui voulaient les amener hors de l'île de Montréal? Cet élément-là ajoute, à mon sens, à la gravité de l'affaire. On dit que la voiture se trouvait dans le secteur de la Longue Pointe, plus ou moins les environs de l'actuel pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine qui n'existait pas à l'époque. La seule option que je vois pour quitter l'île, c'était d'aller passer par un pont qui reliait Pointe-aux-Trembles à Charlemagne sur la rive nord. C'est un long trajet à faire avec un chauffeur qui conduit de manière désordonnée et avec une bouteille de gin entre les genoux alors qu'un autre type à côté tient des propos injurieux. Et c'est sans parler du fait qu'une fois arrivé à la campagne, il n'y a pas moyen de savoir ce qui aurait pu arriver aux deux femmes. L'article nous dit qu'elles ont été prises de frayeur, oui, en effet. En se montrant plus brillantes que leurs ravisseurs et en leur volant leur auto, je pense qu'elles ont sauvé leur peau, en plus de jouer un tour, à nos Godelureaux. Godelureaux, c'est un synonyme de freluquet et un de mes nouveaux mots préférés dans la langue française, incidemment. On nous dit aussi que, sous l'habile direction de la jolie chauffeuse, encore une fois, on insiste sur le joli, les deux femmes sont rentrées en ville et ont laissé la voiture. Mais heureusement, qu'elles étaient futées, qu'elles étaient dégourdies et qu'une des deux savait conduire, même en faisant descendre le chauffeur et son acolyte, il n'est pas dit que les victimes auraient pu s'enfuir à pied. Vous savez, il y a une expression qu'on a utilisée ad nauseam au fil des ans pour excuser et banaliser toutes sortes de comportements masculins abusifs, très souvent à l'égard des femmes, c'est le fameux « boys will be boys » que je traduirais par « les petits gars, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? » Je pense que ça résume à peu près l'idée de ce concept-là. L'histoire que je viens de vous raconter passe pour un simple cas de « boys will be boys ». Comme on a pu le voir depuis tout à l'heure, la nouvelle est traitée avec désinvolture par le journal et l'avant-dernier paragraphe enfonce le clou. Ça se lit comme suit. Nous taisons le nom de ces deux individus pour ne pas jeter le chagrin au sein de deux bonnes familles de Montréal. Il faudrait surtout pas qu'eux ou leur famille aient à subir des conséquences découlant de ce qu'ils ont fait. Imaginez, s'il avait fallu que les garçons en question ou leurs parents se fassent regarder de travers, ce serait épouvantable. Au niveau du système policier et judiciaire, c'est difficile de déterminer si, en fonction des lois et de l'application qu'on en faisait à l'époque, ça aurait mérité des accusations criminelles. Vous allez me dire, si profaner des hosties pouvait vous mener en prison ou à l'école de réforme, les actes posés ce jour-là auraient mérité à tout le moins que les deux lascars aient à en répondre devant les autorités. Ce n'est pas si simple que ça, évidemment. Mais on sait que c'est un policier qui a raconté l'histoire au journal. De la façon dont le compte-rendu est structuré, on a recueilli la version des deux femmes. Les freluquets n'auraient sûrement pas volontairement raconté une histoire qui les faisait aussi mal paraître. Il ne semble pas avoir contredit cette version-là non plus. Et si on comprend bien, lorsqu'ils se sont rendus au poste de police pour récupérer leur voiture, on leur a essentiellement dit de ne pas recommencer, peut-être en fronçant les sourcils, en ajoutant l'index, vous savez, mais peut-être pas non plus. Pour le policier, c'est une anecdote cocasse à raconter à son chum le journaliste, rien de plus. Et comme si c'était pas assez, les deux jeunes femmes, qui ont probablement eu la peur de leur vie, ont elles aussi voulu minimiser l'affaire. Elles ont placé une note sur le volant en laissant la voiture. « Nous ne vous en voulons pas du tout. Seulement, nous espérons que cette petite leçon vous servira. » Elles avaient vraiment intégré le concept du « boys will be boys ». Et le journal terminait son article en disant à l'adresse des freluquets qu'ils prennent garde cependant. Le fait d'insulter les jeunes filles n'est pas un bon début pour commencer une vie d'homme. Je ne sais pas quel genre de morale à Saint-Saëns, est-ce que c'est ça? Mais tous les intervenants s'entendaient sur la marche à suivre. Se croiser les doigts que les deux hommes qui n'ont pas eu à subir d'humiliation publique ou à défendre leurs actions devant la justice allaient apprendre quelque chose et ne recommenceraient pas. En étudiant l'histoire, j'ai souvent la même réaction face à des événements ou des situations du passé. Je commence par me dire, c'était une autre époque, on verrait plus ça aujourd'hui, mais en y réfléchissant, je me dis, est-ce qu'on a vraiment parcouru tant de chemin que ça? C'est une coïncidence que j'enregistre cet épisode quelques jours après que le système de justice québécois a finalement réussi à condamner Simon Hull à la prison. Mais c'était un cas où on lui avait donné une absolution pour ne pas nuire à sa carrière. Et la décision, rappelons-le, n'avait pas été rendue par un vieux juge de la vieille école tout droit sorti d'un épisode de Mad Men. Les choses ont changé au sens où on ne traiterait plus une nouvelle et une affaire comme celle dont je viens de vous parler d'une manière aussi désinvolte, mais entre le « on va taire leur identité pour ne pas causer de chagrin à une bonne famille » et « s'il a un casier judiciaire, il ne pourra pas exercer son métier d'ingénieur ou son métier d'impresario dans le monde de l'humour », la différence n'est pas énorme. Il y a eu du progrès de fait depuis 1928, mais à bien des niveaux, il y en a eu beaucoup moins que ce qu'on pourrait ou voudrait croire.